des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, mes amis, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois l'émission Des livres plein les oreilles qui, comme son titre l'indique, est consacrée aux livres que nous dégustons par l'ouïe, par les oreilles, aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie nous fait parfois de fort mauvaises blagues, de ces blagues qui nous laissent au cœur un goût amer et une blessure difficilement guérissable. Nous en parlerons avec Sylvie Bernier, plongeuse émérite bien sûr, qui une fois, une malheureuse fois, une dramatique fois, n'a pas été en mesure de plonger. Cela donne lieu à un témoignage bouleversant que Sylvie a écrit et est venue enregistrer dans les studios de Vues et Voix. Pardon. Et puis, êtes-vous démordu du trône de fer ? Êtes-vous de ceux et celles qui avaient dévoré la dernière saison sur le petit écran ? Ou bien peut-être l'avez-vous lu, ce bouquin ? Savez-vous que l'expérience est également faisable par les oreilles ? Ce livre a été lu et c'est absolument saisissant. Je vais vous en faire entendre un extrait, ou peut-être même deux. Au tout début de la série, c'est lu par Bernard Métro. C'est une des plus grosses voix mâles de la culture française. Et puis en seconde partie aussi, il y aura la dernière chronique de Claudia La Rochelle pour cette saison, à cette émission. Elle nous arrive avec les gratitudes de l'auteur adoré Delphine de Vigan qui n'en finit pas de nous surprendre et de nous émouvoir. Et enfin, ce cher Gérald Cousineau viendra nous dire au revoir pour cette saison avec une plaquette qui l'a beaucoup touché, L'Aurore, un livre paru en 2018 par un auteur turc qui s'appelle Selahattin Demirtas. On commence ça en chanson.
Did you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same?
Bonjour Sylvie Bernier.
Bonjour Clotilde.
C'est une chanson qui évoque, enfin qui est très évocatrice hein, pour vous,
oui.
cette chanson-là, qui vous rappelle des souvenirs et pas forcément parmi les meilleurs. Rappelons, si par hasard quelqu'un ne saurait pas qui vous êtes, Sylvie Bernier, médaille d'or évidemment olympique, il faut le rappeler parce que c'est quand même un événement majeur dans votre vie. En plongeon, bien évidemment. Donc, une fille, d'ailleurs, vous dites, Sylvie, dans le livre que j'ai lu pour nos amis aujourd'hui, la fois où je n'ai pas pu plonger, que vous qui étiez d'une extrême timidité, sur un plongeoir, ça s'envolait complètement.
Mm-hmm, tout à fait. Sur le tremplin, j'étais vraiment...
Oui, j'appelle ça le plongeoir.
Mais c'est correct.
C'est vrai.
C'est correct. J'étais vraiment une... je dirais transformée. C'était mon lieu et mon moyen d'expression. Ouais. Donc, pour certains, c'est la peinture, c'est le chant, c'est la parole. Pour moi, c'était la liberté de m'exprimer dans le mouvement. Donc, j'étais, timide, je parlais peu. Je me suis entraînée pendant des années pratiquement seule avec mon entraîneur. Donc, c'est un sport individuel. J'étais la seule Québécoise francophone sur l'équipe nationale pendant des années. Donc, même la barrière de la langue
aussi
faisait en sorte que j'étais souvent seule. Mais ce n'était pas un sacrifice. J'étais une personne solitaire de nature, ce qui fait que, véritablement, le plongeon a été pour moi, je dirais, une façon de non seulement de m'exprimer, mais de grandir. Donc, aujourd'hui même, avec 35 ans de recul, je dis merci à la vie de m'avoir permis de m'exprimer de cette façon.
Et merci à la vie, ce ne sera pas la première fois d'ailleurs que vous direz merci à la vie. On retrouvera exactement ces mots-là dans votre livre « La fois où je n'ai pas pu plonger ». Comme ça va toujours un petit peu trop vite dans les entrevues, je voudrais tout de suite arriver à ce jour où la vie s'effondre. On est sur une rivière en Gaspésie, ça se passe par une belle journée d'été. L'embarcation sur laquelle était assis votre petit neveu se retourne en frappant un embâcle de branchage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un embâcle de branchage, c'est un petit peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y en a autant, si ce n'est plus, au fond, que ce qui est visible, et le bateau n'est jamais remonté, le petit est resté prisonnier. Et vous avez tout de suite voulu plonger, bien sûr, et vous avez été retenu
par le père.
Par le père.
De Raphaël, qui est mon frère, mon grand frère.
Et lui, là, et donc, cette fois où vous n'avez pas pu plonger, je me dis tout de suite, c'était pas l'envie qui vous en manquait, il y a ce frère. En dehors de la culpabilité qui vous a rongé, qui vous ronge peut-être encore à l'occasion, est-ce que vous lui en avez voulu de vous empêcher de plonger?
Non, jamais.
Jamais.
Jamais que j'ai pensé que mon frère n'avait pas posé le bon geste. Je m'en suis voulu à moi de ne pas tout simplement m'être débattu puis plonger. Mais jamais j'ai pensé que mon frère m'a empêché.
Ouais.
Et même que cette discussion-là, nous l'avons eue 16 ans plus tard.
Ouais.
C'est comme si c'était véritablement enfoui en moi. Je me souvenais qu'on m'avait retenu. Mais jamais lorsque la culpabilité remontait, que je me disais, ben, s'il ne m'avait pas empêché, je serais allée. Et de toute façon, lorsque je relisais le rapport du coroner, puisqu'il y a eu 33 recommandations pour éviter qu'un accident
se reproduise,
c'était clair, écrit plusieurs fois dans le rapport, que les experts ont mentionné que si mon frère ne m'avait pas empêché, je serais restée dans le fond avec Raphaël. Et mes trois filles étaient témoins, donc je serais restée sous l'eau, puisqu'il y avait justement des branches et un courant beaucoup plus fort sous l'embâcle qu'à la surface. À la surface, puis c'est important de remettre en contexte, les gens s'imaginent là, que je suis dans un rafting
non, pas du tout,
c'est une petite rivière considérée R1, les gens qui connaissent. Donc, facile, mais avec ces grandes particularités de rivière à saumon, avec une sinuosité et des embâcles. Et les embâcles
À cause de ces virages-là,
oui,
hein,
tout
c'est
à fait.
Ça.
Donc, le bois se retrouve sur le côté, l'érosion aussi au printemps. Et donc, le bateau, à partir du moment qu'on frappe un embâcle, c'est presque impossible de ne pas chavirer. Mais ça, nous, on ne le sait pas. On est accompagné de guides, on fait confiance aux guides, mais ça s'est avéré que ces guides n'étaient pas des guides, c'était des gens qui connaissaient la rivière parce qu'ils ont grandi sur la rivière, mais Il ne savait pas nager. Donc, il y avait évidemment qu'on s'est retrouvé dans une situation, lorsqu'on dit la tempête parfaite, bien malgré nous, on n'a jamais anticipé le danger. On avait nos vestes, Raphaël, on savait tous nager. Mon frère et ma belle-sœur sont sauveteurs. Moi, évidemment, que je connais bien l'eau.
L'eau, évidemment, c'est votre élément presque naturel.
Oui, donc c'est pour ça que je le mentionne dans le livre. J'ai vécu le plus beau moment de ma vie dans l'eau et le pire moment de ma vie dans l'eau.
Aujourd'hui, vous avez écrit un livre. Mm. Vous avez participé à un documentaire qui a été diffusé au mois d'avril dernier.
Oui, et qui est disponible toujours sur tout.tv.
Voilà, exactement. Vous avez aussi, entre autres, marché sur les chemins de Compostelle. Tout ça était destiné à une chose, c'était guérir. Hein, guérir de cette blessure profonde, parce qu'après le drame, ça a été le silence, ça a été l'effondrement. C'est comme si vous vous étiez noyé vous-même. Mm-hmm. Hein, c'est un petit peu ça, je pense. Pendant plusieurs mois, voire quelques années. Bon, vous avez un conjoint absolument fantastique hein, qui a pris les choses en main. On ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce que je voudrais revenir sur des mots très beaux. C'est en page 142 de votre livre. Vous avez écrit « Je peux affirmer aujourd'hui, 16 ans plus tard, que la fin de la vie de Raphaël, et voyez-vous, je suis émue, correspond au renouvellement de la mienne.
Ça a été long.
Ça a été
long. Je puisse dire une phrase comme celle-là.
C'est ça. Ça vous en a pris des kilomètres à Compostelle, notamment.
Oui, et de la recherche à l'intérieur de moi. Et je dois vous dire que lorsque on a commencé à réfléchir au documentaire et le livre était vraiment arrivé sur le tard, un peu comme on m'a proposé, j'ai dit oui sans trop y penser parce que même aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais après toute cette recherche intérieure, aujourd'hui, je peux dire que si Raphaël était toujours avec nous, évidemment qu'on serait très heureux parce que... le fait qu'il nous a quittés si rapidement a fait en sorte que j'ai tellement cherché de réponses et que la spiritualité est arrivée sur mon chemin. Et donc, je ne crois pas que je serai qui je suis aujourd'hui.
Grâce à la méditation, parce qu'avant, vous faisiez déjà beaucoup de visualisations. Oui. Hein, vous dites d'ailleurs que c'est comme ça que vous avez aussi mis cette médaille autour de votre cou. Et puis, je voudrais aussi qu'on parle de cet aboutissement aussi qui est nager pour survivre. Mm-hmm. Ça me semble essentiel aussi parce que y a un chapitre qui s'appelle « Il faut que ça change ». Et au-delà de la douleur, vous avez donc voulu faire bouger les choses. Alors, il y a eu ce procès, tout ça. Enfin bon, il y a eu... Et nager pour survivre.
Il fallait trouver de la lumière. Il fallait trouver quelque chose de positif à tout ce drame. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus. Je n'aurais pas accepté de faire un documentaire et d'écrire un livre si ce n'était que de trouver pourquoi. Pourquoi on fait ça? Et donc, premièrement, honorer la mémoire de Raphaël. Deuxièmement, il faut que ça change, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Parce qu'aujourd'hui, un drame semblable pourrait se reproduire puisqu'il n'y a pas de normes de sécurité qui encadrent des activités qu'on appelle « guidées ». Donc ça, je travaille activement avec plusieurs ministères depuis déjà 6 mois. Pour faire en sorte que les familles et les touristes qui arrivent au Québec ne se retrouvent pas dans une situation semblable.
Dans un canot qui n'est pas fait pour ça, entre autres, des choses comme ça.
Donc ça, c'est la deuxième raison. Et le troisième pourquoi était, j'étais estomaquée de lire des statistiques qui disent que 70% de nos enfants au Québec, actuellement en milieu défavorisé, se noient s'ils tombent de façon inattendue en eau profonde. Donc, si on est sur le bord d'un lac, sur un quai, dans une piscine, les enfants ne savent pas nager. Ils savent se baigner les deux pieds vraiment dans le fond de la piscine. Oui. Donc, ils jouent dans l'eau, mais ils ne savent pas nager. Et même les parents ne savent pas ça parce que tout le monde surestime les habiletés aquatiques de nos enfants. Et même les adultes pensent qu'ils savent nager et souvent, ils savent se baigner. Donc, mon rêve est celui de la famille, et si je vais vraiment y travailler jusque le restant de ma vie ici, c'est de faire en sorte que tous les enfants du Québec puissent apprendre les habiletés de base pour survivre, donc en prévention, mais aussi, ce qui va avec mon travail d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent bouger, s'amuser, découvrir les plaisirs de l'eau.
Si on fait nager pour survivre sur le net, on va tout de suite trouver...
Oui, à la Société de sauvetage. D'accord. Faites nagerpoursurvivre.com. Bon. Vous allez arriver sur le site. Si vous êtes un enseignant qui m'écoute, un parent, une école, une commission scolaire, appelez. C'est gratuit. Et on fait une grande levée de fonds. Et même mon livre, toutes les redevances retournent au programme, en fait, le fonds Raphaël Bernier,
oui,
pour que tous les enfants apprennent à nager.
Sylvie Bernier, avant qu'on se dise au revoir, je voudrais qu'on écoute un petit extrait,
oui, hein,
que j'ai enregistré par vous-même, donc de ce livre « La foi où je n'ai pas pu plonger ».
J'ai vécu les plus beaux moments de ma vie dans l'eau. Le 6 août 1984, devant des millions de téléspectateurs d'un bout à l'autre de la planète, j'ai remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles au tremplin de 3 mètres. J'avais 20 ans. Cette médaille couronnait 13 années d'entraînement. Depuis ce jour, pas une semaine ne passe sans qu'on me rappelle cet exploit. Souvent, dans des endroits publics, des inconnus viennent gentiment me saluer. Ils me félicitent et me parlent de cette médaille d'or comme si je l'avais remportée la veille. Ils ont peine à me croire quand je leur rappelle avec un large sourire le nombre d'années qui se sont écoulées depuis ces Jeux. 35 ans au moment où j'écris ces lignes. Après cet exploit olympique, j'ai mis un terme à ma carrière d'athlète. La boucle était bouclée. J'étais allée au bout de mon rêve d'enfance et je pouvais désormais tourner la page, entreprendre une nouvelle étape de ma vie. Dans mon esprit, il n'y avait aucun doute. Je tirerais ma révérence après cette médaille d'or. Parler de rêve d'enfance, ici, n'est pas une image. Le jour où l'Américaine Jennifer Chandler a remporté l'épreuve du tremplin de 3 mètres aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, j'ai en effet regardé ma mère droit dans les yeux et, du haut de mes 12 ans, lui ai confié que je savais désormais ce que je voulais faire dans la vie, être une championne de plongeon et gagner une médaille olympique.
Plouf! Sylvie, aujourd'hui, vous allez bien?
Oui, vraiment, je peux le dire
bon,
haut et fort. Je vais très bien. Le livre et le documentaire m'ont permis de retourner dans cette douleur.
Ouais.
Et je l'ai vraiment fait, comme je fais à peu près tout, de façon très intense. Mais aujourd'hui, grâce à tous ces beaux projets, je peux dire que la vie est très belle. Il y a beaucoup de lumière, puis je suis très heureuse avec mes enfants, mon conjoint et Antoine, le grand frère de Raphaël, Alexis, qui est mon filleul et qui est né 2 ans après le décès de Raphaël.
Quelle bonne idée.
France et Jean-François, donc...
Oui, on voulait avoir un autre enfant.
Oui, tout à fait.
Sylvie Bernier, c'était un honneur et un plaisir de vous recevoir. Merci pour ce livre qui va aussi en conforter, je pense, beaucoup. Merci pour Nager pour survivre aussi. Et puis, merci de l'avoir lu.
C'est un plaisir, vraiment, et un grand privilège. C'est une première pour moi et j'ai adoré.
Alors, La foi où je n'ai pas pu plonger, de et par Sylvie Bernier, qu'on retrouve notamment sur la plateforme livreaudio.vusevoix.com. C'est ma version préférée. C'est vraiment pour trois instruments à cordes et percussions. Écoutez, si vous ne connaissez pas le thème de la musique que nous venons d'entendre maintenant, c'est sans doute parce que, je ne sais pas, vous vivez peut-être sur une île déserte, ou vous n'avez pas la TV, ou vous ne vous intéressez pas du tout à la lecture, ou je ne sais quoi, mais le Trône de Fer, Game of Thrones, qui n'a pas entendu parler, je pense, de cette série-là. Même moi, je l'ai regardée. Sept saisons, maintenant huit. Mais je n'ai pas encore regardé la huitième parce qu'on m'a tellement dit que c'était trop sombre et qu'on ne voyait rien. Je me suis dit, alors pourquoi je vais la regarder? J'aimerais autant l'écouter. Ce qui m'amène à vous parler de cette version qui existe en audio. Écoutez, il n'y a pas... En tant que lectrice, je peux vous dire que si on m'avait proposé la lecture du Trône de Fer, j'aurais capoté. J'aurais tellement aimé ça. Je pense qu'il n'y a pas un lecteur qui fait ce métier-là, qui n'aurait pas aimé lire Le Trône de Fer avec tous ces personnages, avec toute cette ambiance. Surtout que c'est très bien traduit. Hein. La version française, je trouve d'ailleurs, vous allez l'entendre parce que je vais vous faire entendre un voire deux extraits de Game of Thrones, tel que lu par M. Bernard Métro, une grosse voix, mais qui peut se fondre dans toutes les voix. C'est vraiment très, très, très bon. Alors, on va peut-être en écouter tout de suite un extrait. C'est le tout début. En fait, c'est le prologue. On est au pied du mur. C'est la première fois qu'on entend parler de ces morts-vivants qui reviennent et toutes les civilisations, tous les trônes sont protégés par ce mur-là qui les empêche de passer au-delà et d'aller envahir ces espèces de morts-vivants épouvantables, toute la planète et toutes les Cersei et toutes les demeures et toutes les Daenerys du monde de Game of Thrones. Alors, Bernard Métro, écoutez bien cette voix, parce que c'est quelque chose. Le tout début, volume 1, prologue de Game of Thrones, Le Trône de Fer.
Mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Gareth d'un ton pressant, tandis que peu à peu l'ombre épaississait les bois alentour. Ces sauvageons sont bel et bien morts. Aurais-tu peur des morts? Demanda Sir Waymar Royce d'une lippe imperceptiblement moqueuse. Gareth était trop vieux pour relever la pique. En avait-il vu défiler depuis 50 ans et plus de ces petits seigneurs pharaons? Un mort est un mort. Les morts ne nous concernent pas. S'ils sont morts, répliqua doucement Royce. Et rien ne prouve que ceux-ci le soient. Will les a vus, et s'il dit qu'ils sont morts, la preuve en est faite pour moi. Will s'y attendait. Tôt ou tard, les deux autres l'embringueraient dans leur dispute. Il aurait préféré tard. Aussi maugréa-t-il.
Ma mère m'a appris que les morts ne chantaient pas de chansons.
Ma nourrice aussi, rétorqua Royce. Mais ce que seraient une les bonnes femmes en donnant le sein, c'en net, crois-moi. Il est des choses que les morts eux-mêmes peuvent nous enseigner. À ces mots lugubres, la forêt noyée par le crépuscule offrit un écho si tonitruant que Gareth s'empressa d'observer. Pas près d'arriver. 8 jours de route, voire 9. Et la nuit qui tombe. Et alors, dit nonchalamment Sir Waymar Royce avec un regard dédaigneux vers le ciel. C'est l'heure où elle tombe chaque jour?
Je vous l'avais dit, hein, quelle voix! Imaginez-vous, il y a combien? Il y a 12 volumes, je ne sais plus combien à l'écrit, mais pendant 12 volumes d'entendre cet individu-là, ça doit être vraiment quelque chose. Alors, c'est un livre, Game of Thrones, où ça c'est la version anglaise, mais la version française, c'est donc Le Trône de Fer, que vous pouvez retrouver sur à peu près toutes les plateformes dignes de ce nom dans le domaine du livre audio. J'ai trouvé un article fort intéressant sur est-ce qu'il y a, parmi ces histoires complètement rocambolesques du Trône de Fer, est-ce qu'il y a des histoires vraies? Est-ce qu'on s'est parfois basé sur des vérités? Eh bien, comme par exemple la peur de la glaciation. Que dit la série? Winter is coming. Au nord de ce mur Maus, donc, se trouvent des terres givrées parcourues par des zombies bleutés. Toute la série est traversée par la crainte que ce mur ne tombe, laissant déferler des morts-vivants sur les terres humaines. Que dit l'histoire? Winter is Coming fait écho à nos propres craintes climatiques, aux théories de l'effondrement, au grand millénarisme de l'an 1000 au bog de l'an 2000. Mais la peur de finir en glaçon renvoie à une inquiétude très réelle qui a traversé les hommes au moment du petit âge glaciaire. À partir du XIVe siècle et jusqu'au XVe, l'Europe traverse un refroidissement général dû, selon les historiens, à un changement de l'activité solaire ainsi qu'à des éruptions volcaniques. Eh bien, à cette époque-là, il y a eu 630 000 morts à cause de cette glaciation. On écoute un autre extrait. On va être dans la bataille cette fois-ci.
À force de voir les épées se croiser, de subir chaque fois leur bizarre couinement d'angoisse, Will en vint à ne plus éprouver qu'un désir, se boucher les oreilles. Épuisé par tous ses efforts, Sir Waymar était à bout de souffle maintenant. Son haleine fumait sous la lune, et tandis que son épée blanchissait de givre, celle de l'autre, plus que jamais, dansait dans son halo bleuté. Survint l'instant trop prévisible où, à la faveur d'une parade à un rien décalé, l'épée pâle perça la cotte de fer en dessous du bras, arrachant à Royce un cri de douleur. Avec des bouffées de vapeur au contact du froid, le sang jaillit d'entre les mailles, et chacune de ces gouttes, en touchant le sol, maculait la neige d'un rouge ardent. Du plat de la main, Sir Waymar s'épongea le flanc, et son gant de taupe s'en détacha trempé d'écarlate. Alors, dans une langue inconnue de Will, l'autre prononça quelques mots. Mais si le timbre de sa voix rappelait les craquements sourds d'un lac pris dans les glaces, le ton, lui, était à l'évidence goguenard. Sir Waymar puisa dans l'insulte une fureur nouvelle. « Pour Robert !» rugit-il avant de s'élancer, hargneux, et les deux poings crispés sur son épée couverte de givre, de tailler vivement de droite et de gauche, portant tout le poids de son corps sur chacun de ses coups, que l'autre esquivait assez mollement. Or, au premier contact, et avec un cri strident que répercutèrent d'écho en écho...
C'est terrible ce que je vais vous faire. Je vais vous le couper. C'est juste pour vous obliger à aller écouter Le Trône de Fer tel que lu par Bernard Métraux. C'est Clotilde Seille. Vous écoutez à Canalem des livres plein les oreilles. À tout de suite. Des livres plein les oreilles, la suite. En cette deuxième demi-heure de l'émission où l'on retrouve avec un grand plaisir la merveilleuse Claudia La Rochelle qui nous fait replonger avec bonheur et délectation dans l'univers de Delphine de Vigan et puis l'ami Gérald Cousineau, l'homme aux oreilles bioniques qui ne rate rien de ce qui sort en matière de livres adaptés et qui régulièrement vient vous faire des propositions de lecture qui sont ma foi toujours pertinentes. Aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que vous peut-être Selahattin Demirtas, j'espère bien le prononcer. Avant d'accueillir Claudia, cette chanson, juste pour le plaisir.
Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle, tu sais, je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance, vous voyez bien que rien ne manque, ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amours. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Et moi je meurs. d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle. Comme au bon Dieu, sans trop y croire, le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois je pense à elle. Comme au bon Dieu sans trop y croire. Les autres fois je pense à elle. Comme au bon sans trop y croire, le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle rit, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue.
Julien Clerc. Et après Julien Clerc, Claudia La Rochelle. Salut Claudia.
Bonjour.
On l'aime-tu?
Hey, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Ce n'est rien. Ah, mais moi, il y a ma jeunesse.
Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est vrai que ça trahit un peu notre âge, mais moi, je suis plus près d'un Julien Clerc que d'un Bruno Mars, par exemple.
Mais pas moi, mais...
je me l'excuse. C'est vrai que là, j'ai un peu fait une erreur de... Bon, OK, on parle-tu de bouquins?
Oui, mais c'est plus ma spécialité.
Moi aussi.
Pas comme ça. On va passer à ça, à la littérature avec Delphine.
Oui, Delphine de Vigan.
Ouais, Delphine de Vigan qui, après Les Loyautés, a fait paraître ce livre qui s'intitule Les Gratitudes. C'était-tu Les Loyautés ou La Loyauté?
Parce que les,
j'ai
loyautés.
Pas... les Loyautés. Les Loyautés. Bon, je l'avais, j'avais oui, tout oui, juste. Oui. Alors, c'était, bon, Les Gratitudes, c'est le deuxième opus d'un cycle. Donc, commencer avec ces loyautés-là. Il y aura donc quelque chose d'autre qui va venir. Il faut savoir que c'est parce qu'on la connaît pour ceux qui ont adoré Rien ne s'oppose à la nuit ou d'après une histoire vraie, retrouveront leur Delphine de Vigan parce qu'elle a toujours ce même souffle, cette même voix très, très forte, cette manière de voir les gens avec beaucoup de lucidité. Donc, elle doit s'intéresser excessivement, fortement à l'humain, à ce qu'elle elle a cette sensibilité-là pour s'intéresser à l'autre et écrire sur l'autre. Oui. Et là, elle parle de gratitude et je comprends pourquoi elle a parlé de gratitude parce qu'on est dans un contexte social assez dur, en France encore plus qu'ici. Elle est française, donc elle a vu, elle s'est inspirée de son monde, de son univers pour écrire ce livre-là qui se passe dans l'équivalent d'un CHSLD par chez nous au Québec, dans l'univers d'une vieille dame, une dame qui n'en a plus pour tellement longtemps, qui est devenue aphasique, et c'est d'autant plus ironique qu'elle soit aphasique, que c'est une femme qui a travaillé avec les mots, elle a été réviseur, donc le langage était très important pour elle. Et elle ne reçoit pas tellement de visites, mais elle reçoit la visite de cette Marie, qui est presque sa fille adoptive, Marie qui a eu besoin d'elle au cours de sa vie. Donc, il y a eu beaucoup d'entraide entre les deux. Et là, à la fin de la vie de Mishka, Marie est là, elle vient la visiter, elle est là pour elle. Et il y a aussi cet orthophoniste, un jeune homme qui travaille au chevet de cette femme-là pour essayer de lui faire travailler un peu la parole, les mots, tout ça. Donc, il y a cette forme d'accompagnement. Il y a cette narration aussi qui s'enchevêtre. On a plusieurs voix. Donc, on a ces deux voix-là, du moins, qui sont une en alternance avec l'autre. Et Mishka, donc, rencontre ces deux êtres humains-là qui sont importants dans sa vie. ces êtres-là ne se connaissent pas, ne vont se rencontrer qu'à la fin. On va voir pourquoi, mm-hmm. mais je ne le dis pas. Mais il y a donc une importance dans l'altérité, dans le rapport qu'ils ont entre eux, ces personnages-là. Et surtout, on est dans quelque chose, effectivement, qui est la gratitude, le remerciement. Ce n'est pas bon enfant. On n'est pas dans ce ton-là. On n'est pas dans quelque chose...
Dans les bons sentiments.
La bien-pensance. Non. Ça. Non, puis on est plus dans les sentiments qui sont bons. Justement, il y a vraiment une nuance à faire. Oui. Donc, on tombe pas dans la mièvrerie. Elle est pas comme ça. Elle non. va pas là. Et moi, c'est ce que j'aime chez elle. Il y a pas de bons sentiments gratuits.
Et je voudrais, dans l'extrait que vous allez entendre, pour une des rares fois en livre audio, ça commence à se faire de plus en plus. On utilise plusieurs voix. Et là, ils ont utilisé plusieurs voix. Là, on va en entendre deux, celle de Marie, c'est Julie Pouillon, et celle de Clémentine Yelnik, qui fait Mishka. Écoutez, c'est saisissant. Elle vient de prendre possession d'une chambre dans ce qu'on imagine être un genre de CHSLD. Mm-hmm.
Mishka vient de prendre possession de sa nouvelle chambre. Le mobilier est simple. Un lit, une table de chevet, une chaise, un bureau, un placard. Formica, plastique, bois clair. Couleur douce, pastel. Du standard de bonne qualité. Elle est assise sur l'unique fauteuil tandis que je termine de ranger ses affaires. Elle observe autour d'elle les murs propres, nus, les rideaux à fleurs. Je vois bien sa mine renfrognée. Elle est d'humeur maussade. T'inquiète pas, tu vas pouvoir décorer. On va accrocher quelques images au mur et puis on mettra une jolie plante verte sur la table.
Pourquoi faire ?
Pour que ce soit un peu plus chaleureux.
On ne va quand même pas faire croire que c'est chez moi.
Pas du tout, Mishk. Mais ce n'est pas une raison pour que ce soit moche. Tu vas rester ici un petit moment quand même.
Oui, ben ça, on verra.
J'ignore si elle fait allusion au choix de l'établissement ou à un départ plus définitif. Elle a son air des mauvais jours. Soudain, son regard s'illumine.
Tu as trouvé ma bouteille dans le sac ?
Quelle bouteille ?
Mon whisky.
Oui, oui, elle est là. Mais c'est peut-être pas très raisonnable, Mishk, avec les chutes et tout. Tu es sûre que tu veux la garder ?
Oh, écoute, je bois un petit dé à moudre en fin de journée dans un minuscule verre, ça ne va pas me tuer. Tu me la mets dans le hangar, d'accord ? Pas trop haut, ni trop bas. Derrière les vêtements, s'il te plaît, ce sera très bien.
Tu es sûre que c'est autorisé ?
Pas tellement.
Quel travail, hein ?
Oh, j'aime ça ! Vous saviez comme j'aime ça, c'est fou ! Puis qu'elle boive son whisky, tant mieux.
Oui,
je peux croire qu'on peut boire énormément dans ces lieux-là, s'il vous plaît. Non, laissez-nous nos derniers moments de bonheur avant de partir.
Oui.
D'ailleurs, Mishka, la voix lui va très bien. Cette actrice qui incarne,
Clémentine Yelnik,
voilà,
elle s'appelle.
C'est parfait, c'est parfait. Ouais. Et elle a sur le cœur, elle a une pensée. Ce qu'elle veut faire, Mishka, c'est remercier enfin les gens qui l'ont recueillie pendant la guerre, qui lui ont sauvé la vie.
Ouais.
C'est ça qu'elle veut faire. Alors, on retrouve cet esprit-là aussi dans le livre.
Après les gratitudes, on change complètement de sujet. Ça, j'ai vu que c'était dans les nouveautés Audiolib. Alors, je vous ai fait la proposition. Au revoir, mon petit... mon ami qui vient me dire au revoir à travers la vitre, François Brodeur. Je vous ai proposé La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, parce que le sujet m'a semblé...
Ah, oui.
Hein? Alors, qu'est-ce que vous nous en dites?
Ben d'abord, c'est une écrivaine italienne qui est vraiment en ascension en Italie, il faut le dire. C'est une femme qui s'intéresse beaucoup aussi à l'être humain, à l'histoire. Et elle a entendu parler à un moment donné dans sa vie de cette femme, Margot Volk. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais enfin. Margot qui a fait partie, j'ignorais que Hitler avait des goûteuses. Évidemment, c'était des femmes. Hein? On risquait la vie de femme, évidemment, à cette époque-là. Que voulez-vous, c'était ainsi. Et elle faisait partie de ces goûteuses. Il était obsédé, avec raison certainement, à l'idée de mourir. Il se disait, c'est sûr qu'on va vouloir attenter à mes jours. Et c'était un homme aussi qui avait des goûts culinaires particuliers. Alors, il y avait son équipe de goûteuses qui, à chaque jour, se rendait deux fois par jour à son bunker pour goûter avant lui les mets qu'on lui préparait, qu'on lui présentait. Donc, des femmes qui risquaient leur vie à chaque fois.
À chaque fois. Hein?
Et un jour, il y a Margot qui est recrutée de force et elle doit se rendre donc sur place pour devenir, faire partie des goûteuses. Et Rosella Posterino a entendu parler de cette histoire-là et elle s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose avec. Je comprends, c'est tellement de la matière à écriture. Alors, elle a écrit une longue lettre à Margot. Et au final, le jour où elle a voulu mettre la lettre à la poste, oui, elle a appris que la dame était décédée.
Oh!
Elle s'est dit, bon, d'accord, je vais quand même faire mon histoire inspirée de celle de cette dame-là. Oui. Et elle l'a fait, elle a plongé corps et âme dans cette histoire-là et s'en est inspirée pour... il y a un mélange de réalité, mais il y a un mélange de fiction aussi, on devine, pour écrire cette histoire-là. Donc, La goûteuse d'Hitler, ça se passe en 1943 et ça se poursuit donc jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au moment où tout le monde fuit finalement, où tout le monde meurt. Et elle fait partie, en fait, c'est la seule goûteuse qui a réussi à survivre. Mmh. Elle s'est poussée au bon moment et elle a réussi à survivre à cette histoire-là. Elle est décédée très, très vieille. Et la goûteuse et Rosella Pastorino dans La goûteuse réussit à transmettre les ambiances, le stress, oui, les relations entre les goûteuses aussi, parce qu'il y a comme une micro-société qui se forme à l'intérieur même de ce groupe. Et ces femmes-là ont toutes leurs opinions différentes sur ce qu'elles sont en train de vivre. Il y a celles qui sont aveuglées par le fourreur, celles qui vouent corps et âme à cet homme-là. Et il y a les autres qui sont un peu plus critiques face au système en place, face à la dictature. Et elle en fait partie, Margot, de ces gens-là. Elle se révolte aussi.
Et il y a notamment une femme qu'elle redoute quasiment autant que les SS, hein, oui, qui s'appelle Elfriede. Et je vous, dans l'extrait qu'on va entendre là, on est à table et Margot est prise d'une irrésistible envie et on va s'apercevoir que l'autre est toujours sur ses bottes, quoi, littéralement. On écoute un extrait.
Le carrelage était abîmé, les joints noircis. Deux lavabos et quatre portes. Le SS resta en sentinelle dans le couloir. Nous entrâmes. Je m'enfermai dans un des WC. Je n'entendis aucune porte se fermer, ni l'eau couler. Elfriede avait disparu, ou se tenait à l'affût. Le ruissellement de mon urine dans le silence était humiliant. Quand j'ouvris la porte, elle la bloqua du bout de sa chaussure. Elle posa sa main au creux de mon épaule, me plaqua contre le mur. Les carreaux sentaient le désinfectant. Elle approcha son visage du mien avec une sorte de douceur. « Que me veux-tu » demanda-t-elle. « Moi ? Pourquoi me regardais-tu pendant la prise de sang ?» J'essayais de me dégager, mais elle m'en empêcha. « Je te conseille de t'occuper de tes affaires. Ici, il vaut mieux que chacune se mêle de ce qui la regarde. Je ne supporte pas la vue de mon sang. » Mais le sang des autres, tu le supportes ? Un choc métallique contre le bois nous fit sursauter. Elfriede recula. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» demanda le SS dehors, avant d'entrer. Les carreaux étaient humides et froids. Ou bien c'était la sueur dans mon dos. « Vous complotez ?» Il était chaussé de bottes énormes, parfaites pour écraser une tête de serpent. « J'ai fait un malaise, sans doute à cause de la prise de sang, » bredouillai-je en massant le point rouge au creux de mon coude, sur la veine en relief. Elle est venue à mon secours. Je me sens mieux maintenant. Le garde nous avertit que s'il nous surprenait à nouveau dans une attitude aussi intime, il nous donnerait une bonne leçon. Ou plutôt non, il en profiterait. Et il eut un rire inattendu. On retourna au réfectoire, l'échala sur nos talons, aux aguets. Il n'avait rien compris. Ce n'était pas de l'intimité entre Elfriede et moi. C'était de la peur. Nous jaugions les autres et l'espace autour de nous avec la terreur inconsciente des nouveau-nés. Le soir, dans les toilettes des Auer, le parfum d'asperges de mon urine me fit penser à Elfriede. Elle aussi, assise dans son WC, respirait cette odeur. Et Hitler aussi, dans son bunker à la Wolfschanze. Ce soir-là, l'urine d'Hitler et la mienne sentaient pareil.
Belle lecture, hein. Elle s'appelle Audrey Sourdive, ouais. la narratrice. Quelle ambiance, hein, dans ce livre-là, la gouteuse d'Hitler.
Elle transmet cette ambiance-là avec vraiment beaucoup de doigté, de justesse. Oui. Mais vous savez quoi, on en apprend beaucoup sur Hitler aussi, sur ses manies, ses obsessions, ses névroses. Quel être névrosé, quel être bizarre aussi. Mmh. Il y avait toutes sortes de fascinations pour la nourriture et d'obsessions liées aussi au véganisme. Il était vegan avant le temps. Avant que ce soit mode, alors lui déjà, il y avait manger les animaux, tout ça, ça lui levait le cœur. Mmh. On apprend tout ça.
Claudia La Rochelle, encore une fois, deux livres qu'on a évidemment très, très hâte de lire. Je vous les redonne. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. C'était sorti sur papier chez Albin Michel. Et puis, après, les loyautés, les gratitudes de Delphine de Vigan. Tout ça est en audio. Vous pouvez retrouver ça sur toutes les bonnes plateformes dignes.
C'est vrai? Oui, absolument. J'étais très heureuse de venir vous en parler de ces deux-là, spécialement ces deux-là d'ailleurs. Ouais.
Alors Claudia, c'était la petite dernière pour cette saison, puisque la semaine prochaine ce sera ma dernière. Alors je voulais vous remercier encore, remercier. Un coup je te dis vous. Écoute, j'espère que ça va se prolonger l'an prochain. On verra ce que l'avenir nous réserve.
Avec plaisir, je reviendrai toujours sur tes pas, ma chère Claudia, avec amour.
Bon été, bonne lecture, Claudia. Merci infiniment. Aussi. La voix d'écorchée vive de Mara Tremblay sur les ondes de Canal M à l'émission Des livres pleins les oreilles. Ça s'appelle Les Aurores. Alors, c'est pour ça que notre ami Mathieu Tessier avait choisi cette chanson-là, parce qu'on va parler d'une autre aurore avec cette fois-ci Gérald Cousineau. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Comment allons-nous? Bon, comme on disait à la grande cour à l'époque.
Nous nous défendons.
Nous nous défendons. Alors, je n'ai pas lu le livre dont il sera question aujourd'hui, mais j'en ai lu beaucoup de bien, par exemple, lorsque j'ai fait des recherches de cette aurore de Selahattin Demirtas. Bon, c'est un Turc, alors je ne sais pas si on prononce bien, mais...
Oh, je ne sais pas moi non plus, mais c'est vraiment Selahattin Demirtas. Alors, c'est un Turc, en fait un Kurde,
et oui,
très important, un Kurde d'origine, enfin un Kurde qui vit en Turquie, un Kurde de Turquie, voilà, j'y arrive. Alors, c'est un monsieur qui est le chef d'un parti politique, je pense que c'est le DHDP, en fait c'est le Parti démocratique des peuples, c'est le genre de leader charismatique, et c'est un parti d'opposition pro-Kurde, évidemment. Et ce monsieur est en prison depuis novembre 2016. Vous vous rappelez qu'il y a eu un putsch manqué en Turquie en 2016, et le président a paniqué, il a fait enfermer quasiment tout le monde, et entre autres ce monsieur, ce chef politique, donc Selahattin Demirtas. Eh bien, le livre qu'il a écrit, en fait, c'est un recueil de nouvelles qu'il a eu du mal à écrire, parce que, bien sûr, ses avocats, imaginez-vous que ses avocats ont dû demander la permission qu'il puisse écrire en prison. Il l'a obtenu. Alors, il a écrit ce recueil de nouvelles qui s'appelle « L'Aurore ». Ça a paru en Turquie en 2017. Eh bien, le livre a été un immense succès de librairie. Incroyable, mais vrai. Et le livre a paru en français en 2018 grâce à l'éditrice Emmanuelle Collat, qui s'est littéralement battue pour publier le recueil. Elle l'a défendu un peu partout, et avec raison, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, ça s'appelle L'Aurore. Il y a 10 ou 12 nouvelles. Et c'est un livre j'ai envie de dire tout de suite, qui rend hommage aux femmes. D'ailleurs, il le dédie, d'entrée de jeu, il le dédie à toutes les femmes assassinées et à toutes celles victimes de violences. Bon, alors, on est fixé tout de suite dès le départ, là. Et on parle de la Turquie, évidemment, mais on parle de Syrie également. Donc, je vais en citer quelques-unes. Il y a, par exemple, dans la toute première nouvelle qui s'appelle « Le mal qui est en nous », eh bien, le mal, ici, avec un accent circonflexe,
on l'aura compris,
c'est une sorte de fable. Vous avez le narrateur qui est en prison, comme par hasard, et de sa fenêtre, il observe un couple de moineaux. Eh bien, imaginez-vous que c'est la femelle qui fait tout le travail, et c'est la femelle qui va défendre le nid contre qui? Contre 4 oiseaux policiers.
Ah tiens donc, bah oui.
Et c'est elle qui fait tout le travail, donc. Et le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le fanfaron, il bombe le torse. Et qu'est-ce que le narrateur va lui dire à la fin de cette espèce de fable? Eh bien, tu devrais tuer le mâle en toi. Voilà, ça c'est la première nouvelle. Donc on a compris la morale. Il y a une autre nouvelle, là, c'est la plus dure, vraiment la plus dure du recueil, ça s'appelle Ce R. Ce R, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire l'aube ou l'aurore.
L'aurore, c'est ça.
C'est le prénom de la jeune fille, elle s'appelle Aurore, et elle découvre l'amour, malheureusement. Elle va être violée par 3 hommes, et suite à ça, elle va être victime. Son frère cadet va devoir la tuer sur les ordres de son père. Donc, on a vraiment ici un crime d'honneur.
C'est
très
dire.
Dur. Mais en même temps, dans cette nouvelle-là, il y a quand même... On a parlé du style lumineux. Il y a de la lumière, malgré tout.
Et de l'humour, c'est pas dénué d'humour du tout. Hein.
Non, pas du tout. Il y a une nouvelle où ce n'est pas ce que vous croyez. Là, on est carrément dans l'humour. Un homme qui aime, mais vraiment trop, une femme qui va le lui dire à un moment donné. Mais c'est vraiment la deuxième nouvelle dont j'ai parlé, ce R, l'aurore, qui est la plus dure. Mais enfin, en même temps, il faut passer à travers cette nouvelle-là, parce que malheureusement, on le sait, il y a beaucoup de femmes en Turquie et en Syrie qui connaissent ce genre de malheur. Donc, il y a un peu d'humour. Il y a une nouvelle, entre autres, où il y a deux préadolescents qui vont construire au noir une prison, et comme par hasard, ironie du narrateur, cette prison-là est la même que celle où vit l'auteur, ou Victor Myrtas. Donc, il ne manque pas d'ironie. Donc, tout ça fait que ce recueil de nouvelles, à mon avis, ça fait partie de ces livres essentiels. Ce n'est pas un divertissement. C'est pas le genre de livre qu'on va lire et qu'on va oublier 5 minutes après l'avoir lu. Pas du tout. Ça frappe, mais en même temps, il n'y a pas de tape à l'œil, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effet littéraire. C'est raconté de façon très simple, mais Et peut-être, c'est peut-être pour ça en partie que ça frappe l'imagination encore plus. Donc, un très beau livre, très beau recueil de nouvelles de M. Demirtas. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est
moi
son
non
premier
plus.
Livre, mmh. premier recueil. Mais le livre est superbement traduit. Il faut le dire, d'ailleurs, l'éditrice rend hommage au traducteur qu'elle a trouvé. Et effectivement, c'est très bien rendu, très bien traduit. Donc, je suis très content. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait partie de ce qu'on appelle, imaginez-vous, la littérature turque carcérale.
Oui, ben oui.
Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur dissidente, toujours une turque, Asli Erdogan. Eh ben, elle a écrit quelque part, elle a dit quelque part que les prisons turques produisent quantité d'écrivains.
D'écrivains.
Imaginez,
hein?
Imaginez les prisons
Alors,
turques.
Alors, ce qu'on souhaite maintenant, vous serez d'accord avec moi, Gérald, c'est que ce monsieur ne passe pas sa vie en prison ou 40 ans de sa vie en prison comme d'autres l'ont déjà fait, parce que lui, il est convaincu qu'il va être emprisonné là à vie. Hein. Mais
oui,
au moins, j'espère qu'on ne le privera jamais ni de papier ni de crayon pour continuer à écrire ce monsieur Demirtas. On n'a plus que 25 secondes, 20 secondes pour se dire au revoir, Gérald. C'était votre dernière pour la saison.
Eh oui, déjà.
Mais merci, merci pour votre fidélité.
Ça m'a fait plaisir.
Oui. Quel bonheur. Alors, et merci pour cette aurore de M. Demirtas. Et bonne fin de journée. Et au revoir à tout le monde. Merci à Mathieu Tessier. Au revoir.